Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission la plus rock de la bande FM. Au sommaire de cette émission, nous allons tout d'abord retrouver dans quelques instants Jean-Marc l'ARR, pour une chronique d'un roman qu'il a bien aimé, qu'on aime beaucoup aussi. Et puis, ce sera mon tour de vous parler d'un roman, d'un petit roman qui nous vient d'un pays où il n'y en a pas beaucoup des traductions. Et je vous laisse, je vais laisser le suspense jusqu'à la deuxième partie parce que Kim Jong-ha nous a fait une bien jolie surprise. Et dans la deuxième partie d'émission, nous aurons le grand plaisir de retrouver Jérôme Leroy. Jérôme Leroy, on le connaît en tant qu'écrivain. Et bien là, on va parler de ses plaisirs littéraires et d'une carte noire que lui offre un éditeur. Et pour l'instant, comme je viens de l'annoncer, nous avons le grand plaisir de retrouver Jean-Marc Lahrer. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous rejoindre. C'est merci assez rare, vous allez nous parler ce soir non seulement d'un français, d'un roman français, mais d'un roman écrit par une française. Et j'ai regardé là dans les chroniques, finalement, on n'en fait pas tant que ça.
Ah oui, c'est possible. Alors oui, c'est une française, elle s'appelle Anne-Laure Roqueyre. Donc c'était une auteure qui était connue par les lecteurs de polar parce que ça fait déjà quelques années, elle a écrit une trilogie excellente déjà publiée chez Métellier. Et là, elle revient avec un roman qui s'appelle La Daronne, toujours chez Métellier. Alors, c'est un nouveau personnage qu'elle a pris. Cette daronne, c'est Patience Portefeu. C'est une femme qui élève seule ses deux filles. Dans les années 60, elle était gamine, elle avait deux parents qui aimaient beaucoup l'argent, qui le gagnaient par des moyens pas forcément totalement légaux, et puis qui vivaient en apparence chichement et qui se payaient du luxe régulièrement. Ils partaient pour des vacances, alors qu'ils vivaient dans une espèce de masure planquée. Quand ils partaient en vacances, c'était les grands hôtels et autres. Puis bon, son père est mort, la mère n'a plus les moyens de vivre sur ce pied-là, mais elle s'est mariée entre-temps avec un mari qui ressemblait beaucoup à ses parents, à son père, pas toujours complètement respectueux de la loi, et puis lui aussi il est mort. Et là, elle doit survivre, et pour des raisons qu'on découvrira en lisant le livre, il se trouve qu'elle parle couramment l'arabe, et donc, pour survivre, elle va devenir traductrice assermentée d'arabe en français au service de la justice et de la police. Une vie assez terne après tout ça, jusqu'au jour où, au détour d'une conversation téléphonique qu'on lui demande de traduire, elle s'aperçoit qu'il y a un énorme chargement de cannabis qui est perdu, puisqu'il a été planqué, elle a su où. Les gens qui l'avaient planqué sont arrêtés ou morts, et il est donc dans la nature. Et puis elle va décider que c'est l'occasion de retrouver le colis, enfin les colis, et de retrouver sa vie d'avant. Voilà pour l'histoire. Alors ce que ce résumé ne rend pas du tout, c'est que bon, les amateurs d'Anne-Laure Roqueyre ne seront pas surpris, les autres ils risquent de l'être pas mal. Surtout quand on apprend qu'elle est avocate, en fait.
Oui, donc son métier. Je ne sais pas si elle exerce toujours, d'ailleurs, mais son métier officiel, c'est avocat.
Oui. Oui, elle était avocate commis d'office, d'ailleurs, qui était le titre de son premier roman. Mm. Et alors, par contre, on est très, très, très loin d'un roman procédural à l'américaine. Parce que un roman d'Anne-Laure Roqueyre, c'est avant tout un ton, un regard et une écriture. Mm. Et alors, l'écriture est absolument jouissive. Elle est d'une méchanceté et d'une intelligence dans ses descriptions, dans son analyse des choses qui sont absolument géniaux. Et puis, elle connaît parfaitement les milieux qu'elle décrit, alors que ce soit les juges, les avocats, les flics, ou les petits et moyens malfrats. Et puis, elle a ce ton, cette écriture, ce regard qui, moi, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, ça m'a fait penser à des proches. C'est-à-dire que quand un con est un con, elle le dit. Elle dit pas que le pauvre, peut-être, il a des raisons. Non, non. Un abruti est un abruti. Et ça l'empêche pas d'avoir un regard très, très tendre quand même sur certaines personnes qui, malgré toutes leurs difficultés, essayent de s'en sortir comme elles peuvent.
Et mais c'est souvent un regard décalé, comme on dit, un petit coin de la lorgnette finalement, effectivement, qui lui fait toujours avoir un regard sur les autres qui est juste à côté de ce que nous on pourrait penser et qui donne des choses magnifiques.
Oui. Ah oui, oui, c'est magnifique. Il y a des moments très, très, à la fois... Bon, par exemple, dans ses relations avec sa mère, qui est en maison de retraite, elle a à la fois un regard très dur, très sans mièvrerie, mais qui fait passer quand même l'empathie qu'elle peut avoir pour cette femme, pour qui, à côté de qui, elle peut pas se supporter plus de 5 minutes quand même. Mmh. Et ça, on le retrouve dans toutes ses descriptions. C'est vraiment extraordinaire.
On pourrait, il y a un moment donné, enfin, on pourrait dire à un moment, j'ai pu imaginer de parler de certaines descriptions un peu à l'emporte-pièce, mais oui. Ça a un côté péjoratif et ça lui convient pas bien. Mais c'est vrai que de temps en temps, sur un personnage ou sur une situation, c'est tellement totalement décalé et ça nous épate.
Et ça nous épate, et en plus, c'est extrêmement juste. Je sais pas
c'est
si
très,
j'ai le temps.
Très fin.
Ça vaut le coup peut-être de lire juste une description.
Ah oui, ce serait
fait.
Très bien, Jean-Marc, ouais. Oui.
Voilà, j'avais préparé, j'en avais une sous la main. Donc, une description de dealer. Alors, ça va, elle arrive. Et la description, ça donne ça. Porsche Cayenne aux vitres teintées, encerclée d'emballages de fast-food jetés par terre et garée sur une place handicapée. Rap et climatisation à fond, les portières ouvertes, gros porc avec collier de barbe filasse sans moustache, pantacourt, tongs de piscine, t-shirt Fly Emirates PSG flattant les bourrelets, et pour la touche, accessoires chic de l'été, pochette Vuitton balançant sur gros bide et lunettes Montana, Tony Montana réfléchissante. La totale, le nouvel orientalisme.
Joli.
Voilà.
Paf. Ah oui, c'est ça, c'est paf.
C'est extraordinaire, moi, je trouve.
Et oui, c'est quand comme vous avez dit tout à l'heure, c'était on peut être méchant parce qu'on est intelligent.
Voilà.
C'est exactement
ça. Et parce
ça.
Que c'est extrêmement juste. Mm. C'est extrêmement juste, c'est-à-dire que...
On dirait qu'elle habite sur la Côte d'Azur, en fait, d'ailleurs.
Elle doit y passer de temps en temps.
Voilà, parce qu'on en rencontre quand même quelques-uns, des comme ça, par ici.
Oh, et puis il doit y avoir des clichés assez répandus en France, quand même.
Oui, bien sûr. C'est sûr.
Donc voilà, je conseille à Daronne.
Hautement recommandable.
Je crois savoir qu'elle a pas mal de succès.
Ben, elle a été honorée par un prix quand même important maintenant au festival Quai du Polar à Lyon début avril. Je me souviens plus si c'était le 31 mars ou le 1er avril. C'est un prix qui a un retentissement assez important. Elle a eu beaucoup de public et beaucoup de succès. Et effectivement, ça bruise beaucoup. Et c'est totale justice parce que c'est vrai que ses trois premiers romans, nous on avait beaucoup aimé sa première, Le Commis d'Office, j'avoue que je ne me souviens plus les deux autres chez Métayer, mais c'était passé un petit peu plus inaperçu. Et donc, si celui-là a du succès, ben on peut espérer d'ailleurs une réédition des trois premiers.
Voilà, c'était là que je voulais en venir justement. J'espère que ce succès va permettre à des gens de découvrir Commis d'Office. Je ne me souviens plus du second, le dernier.
Ben voilà, on a le même trou de mémoire, c'est embêtant.
C'est Grand Dixo pour le dernier, ça je suis certain. Après, et il y en a eu un autre entre-temps que malheureusement j'ai raté, j'avoue. C'était Toile de Maître, voilà. Commis d'Office, Toile de Maître, Grand Dixo.
Voilà, donc ça c'était le premier, ça commence à faire quelques années.
Oui, ça commence
c'était
à faire quelques
le
années.
Le premier, je crois, date de plus d'une dizaine d'années. Donc ouais. Une réédition serait des bienvenues en poche, par exemple.
Par exemple.
Ce serait vraiment
avec
très bien.
Avec un personnage, Christophe Lebovitz, qui était un avocat commis d'office, qui n'était pas, disons, un modèle de courage, et ni même d'intelligence, mais là aussi, c'était extrêmement bien croqué.
Ah oui, avec un humour, d'un cynisme et d'une acidité... Oui. Délicieux.
Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Marc.
Mais de rien.
À très bientôt, d'ici la fin de nos émissions. J'espère qu'on va vous retrouver. Bonne soirée à vous.
Au revoir.
Au revoir. On va continuer par un petit peu de musique. Alors, un groupe, il n'est pas nouveau, celui-là, Procolarum. Vous comprendrez dans la deuxième partie d'émission pourquoi on a choisi ce morceau de musique. Il vient de sortir un nouvel album, ce groupe, qui s'appelle Novum. Et on vous propose un extrait d'un morceau qui s'appelle « Can't Say That ». Maintenant, le morceau est long, donc on va en écouter qu'une partie.
voilà.
Toujours belle voix de Gary Brooker, Procolarum, un nouvel album. Sans transition, dit-on très souvent, je vais vous parler d'un livre coréen. Traduit, bien évidemment. Alors, une des traductrices, ça va aller, Mélanie Banel. L'autre, ça commence à être dur, Lim Yeong-hee. C'est donc un roman, ça continue, de Kim Yong-ha, paru chez Piquet Poche, grand spécialiste, très bon éditeur et spécialiste des littératures asiatiques. Et ce roman s'appelle « Ma mémoire assassine ». Pourquoi ? Alors, ma mémoire assassine, est-ce que c'est une phrase du présent de l'indicatif ou un adjectif qualificatif ? Vous le saurez en lisant cet excellent roman. Petit, 150 pages, lumineux, tendre, sur des méandres bien obscurs de notre cerveau, puisque nous allons partir sur les traces de la mémoire, en compagnie d'un vieux monsieur qui souffre d'Alzheimer. Tout du moins, il l'apprend dans les premières pages de ce roman. Cela semble un très gentil vieillard. Cela semble qu'il soit bien entouré de sa fille adoptive. Il est très attentif. Sauf que, on apprend très vite, en l'entendant tenter de se rappeler de son passé, qu'il fut un tueur en série, froid, méthodique, frappant au hasard, tuant sans remords des dizaines de personnes, y compris les parents de la susdite fille adoptive. Donc le gentil vieillard, il commence à prendre un coup dans l'aile, tout de moins son image. Et cela fait maintenant des années que, sans jamais avoir été inquiété, un beau jour, il s'est arrêté de tuer, personne n'a jamais trouvé, et il coule des jours paisible. Et alors, il a carrément changé de forme de vie, puisqu'il passe son temps maintenant à lire de la poésie et de la philosophie. Peut-être que ça lui a permis de comprendre des choses, mais... Mais voilà qui pas que sa fille fréquente un homme qui lui semble dangereux. Il faut donc reprendre du service et l'éliminer. Mais comment projeter un meurtre quand on ne peut pas faire de plan sans l'oublier tout de suite ? Le vieil homme a beau s'enregistrer et tout noter, il ne peut anticiper ses actes. Évidemment, en s'enregistrant, il enregistre aussi ses mémoires, puisque quand on est atteint de cette dégénérescence, la mémoire immédiate nous fait défaut, mais on se souvient, on a des réminiscences des mémoires plus anciennes, donc il finit par laisser les preuves. Et le récit de cet homme âgé, qui veut recommencer à tuer, est... en fait, étonnamment cocasse et faussement naïf. Pour lui, tuer était sa seule passion, sa seule satisfaction au monde. Et il ne s'est jamais fait prendre. Où est donc le mal ? Derrière cette histoire, l'auteur nous entraîne dans une réflexion beaucoup plus sérieuse, autour, en gros, des fils du temps. Qu'est-ce que le présent ? Si l'on ne peut l'utiliser pour prévoir demain ? Et le futur a beaucoup plus besoin de la mémoire que le passé. Et donc, Alzheimer, ce meurtrier de la mémoire, l'auteur cite à un moment d'ailleurs ce très très beau film coréen qui s'appelle Murders of Memories, très beau film noir d'il y a une dizaine d'années. Alzheimer n'annihile pas vraiment complètement l'avenir des gens atteints, mais ça raccourcit leur vie, ça raccourcit demain, ça raccourcit après-demain. Ça raccourcit évidemment à cause de leur perte de mémoire qui les empêche de penser à demain, parce que ce que nous fait réaliser, on le sait bien évidemment, mais la lecture nous y fait penser, c'est que penser à demain, c'est uniquement grâce à hier et puis surtout grâce au présent. On a donc une narration très lente qui sied aux pensées confuses et à la vie ralentie du personnage, et qui laisse ainsi le loisir d'explorer notre propre rapport au temps, de penser au chaos des esprits qui perdent ses repères temporels et dont l'existence ne peut plus simplement se dérouler de manière linéaire. Ainsi que cette histoire d'ailleurs, à la fin, que je ne dévoilerai pas bien entendu, bien singulière. Voilà, donc vous voyez, on part d'un roman cocasse et au départ dont on imagine qu'il va être truculent et drôle, et on finit par une réflexion très intéressante sur comme je l'ai dit au début, les mémoires et le fil du temps entre hier, aujourd'hui et demain. Et tout ça en 150 pages avec une très jolie couverture. Donc je rappelle le titre « Ma mémoire assassine », un roman de Kim Young Ah chez Piquet Poche. Et les deux traductrices sont Lim Yeong Ye et Mélanie Banel. J'ai dit traductrice, mais Lim Yeong Ye, j'avoue que je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame. Voilà, on vous laisse quelques instants pour quelques infos et on vous retrouve pour la deuxième partie d'émission.